Waouh, quel plaisir de louer le Seigneur ensemble. Quelle bénédiction d'entendre les prières des uns et des autres et de savoir que le Seigneur à la fois recueille toutes ces prières et même ce qui est extraordinaire, c'est qu'à travers la prière d'un frère, d'une sœur, ben le Seigneur est en train de me parler ou de te parler. Parfois on se dit, mais comment est-ce qu'ils entendent ça? Comment est-ce qu'ils le voient? C'est souvent mon fils m'a dit, mais papa, les gens qui disent des images, comment ils les reçoivent? Je lui ai dit, ben, je ne sais pas, il faut aller parler avec ces personnes. Ce que je sais, c'est que le Seigneur nous parle de diverses manières. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Hébreu nous dit que dans ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils, une parole christocentrée, centrée sur le Christ. Et j'aime beaucoup m'appuyer sur le récit biblique qui nous montre la vie des premières communautés. Elles aussi avec le défi qui est le nôtre, discerner la voix de Dieu, discerner l'appel de Dieu, vivre une vie qui réponde à la vocation qui nous a été adressée. C'est ce que nous voulons vivre. Pour celles et ceux qui ne fréquentent pas cette assemblée depuis un certain temps, au moins depuis un an. Donc, je suis le nouveau pasteur, Paul Efona, qui a rejoint cette belle famille en Christ. Et au cours de cette année que nous venons de vivre ensemble, nous avons réfléchi à la façon dont nous pouvons formuler ou reformuler ce qu'on pourrait appeler la vision vers où le Seigneur est en train de conduire cette famille diversifiée d'hommes et de femmes qui ne se sont pas choisis. Vous savez, ce n'est pas un club. Mais des hommes, des femmes que le Christ a placés ensemble. Ils ne se sont pas choisis, mais Dieu les a placés ensemble. En ce qui me concerne, je suis originaire du Cameroun et je vis en France depuis 22 ans. Mon épouse Nadia, on s'est rencontrés jeunes étudiants en Afrique. Nous nous sommes mariés et nous avons aujourd'hui 4 enfants. Et après avoir été pasteur dans différents endroits, en Picardie, en Beauce, à Grenoble ces 11 dernières années, nous voici donc à Nîmes, au milieu des Nîmois. Et le Seigneur nous bénit dans cette richesse des rencontres des uns et des autres. Là où il y a altérité, là où il y a différence, là aussi il y a enrichissement, mais pas que. Parfois, il y a aussi le défi de tout articuler pour que l'ensemble soit bien coordonné. Et ce que le Seigneur a posé sur nos cœurs, c'est que nous voulons être une famille en Christ où sa vie jaillit en abondance. Une famille en Christ où sa vie jaillit en abondance. Vous allez souvent m'entendre revenir à cette parole parce qu'il est important que nous puissions vraiment avoir à cœur ce pourquoi nous venons dans cette assemblée. Et pourquoi celle-ci et pas une autre? Qu'est-ce qu'ils veulent vivre? Qu'est-ce que je veux vivre avec eux? Si vous venez dans cette assemblée, j'aimerais que vous puissiez savoir que ce qui brûle sur le cœur de ceux qui ont la responsabilité de donner une direction, de pointer une orientation, c'est que nous soyons une famille en Christ. C'est un défi. En une époque où la famille est troublée, où la famille est défigurée, est blessée, est reconfigurée. Nous voulons être une famille en Christ. Pas une famille idéalisée, pas une famille fantasmée. Une famille avec toutes ces réalités qui touchent toutes les familles. Mais une famille en Christ. Une famille que le Christ est en train de restaurer. Une famille qui est déjà un visage, certes pas complètement parfait, mais un visage, une expression en un lieu donné, en un temps donné, de ce que Jésus est en train de faire dans la vie de chacun d'entre nous. Et nous voulons que sa vie jaillisse en abondance par le ministère même de l'Esprit-Saint dont nous parlerons encore ce matin. C'est croire que chacun de nous est acteur et participant. C'est croire que Dieu a tellement aimé chacun de nous que chacun de nous a reçu au moins un don de Dieu. Et la Bible dit que chacun mette au service du corps le don qu'il a reçu de Dieu. Sa vie jaillira en abondance au milieu de nous. Viendra ce temps ou d'autres seront au bénéfice de la transmission. Dis-moi comment écouter le Seigneur. Dis-moi comment enseigner. Aide-moi à trouver mon don. Comment jouer la musique, comment accompagner. Comment être prophète aujourd'hui. Ce lieu accueillera, les amis, mes frères et sœurs. Et c'est notre vision. Que ce lieu devienne un centre de ressources et d'équipement de celles et ceux que le Seigneur enverra à un aussi grand nombre qu'il le voudra. Non pas pour que nous soyons une méga church, mais pour que nous soyons ce lieu d'où sa vie jaillit en abondance, bénir celles et ceux qu'il nous donne pour qu'ils rencontrent la ville, pour qu'ils rencontrent la culture, où qu'ils aillent, porteurs de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Une génération de nos jeunes se lève. Une génération de nos jeunes commence à brûler de tout cœur pour cela. Nous entrons dans une année où je prie que le Seigneur renouvelle notre zèle. Et que nous ne soyons pas seulement dans le discours, mais que nous puissions passer de la parole aux actes. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Actes chapitre 1, versets 1 à 8. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Or, un jour, il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. « C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. » Comme ils s'étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Rendre témoignage, oh, vous allez vite là, à Jésus-Christ, c'est la vocation de l'Église et la vocation de tous les disciples. Nous avons vécu un week-end la semaine dernière, nous étions grands et jeunes et moins jeunes, pour reprendre l'expression du chant « jeunes et vieux », ça pique un peu ça. Nous étions à Gagnères, à 1h30 d'ici, et nous avions invité Philippe Adams, un pasteur de notre fédération, missionnaire, qui nous a encouragés à réfléchir, à nous laisser bousculer par le Seigneur. Il a utilisé une expression à changer de paradigme, sorte de conversion, de changement de mentalité, de logiciel. Et il nous a dit, l'Église n'est pas là pour faire des activités, mais pour accompagner chacun à être disciple de Jésus-Christ, au point où chacun soit capable à son tour d'aider quelqu'un d'autre. Il nous a parlé de comment Barnabas, un homme de l'Écriture, a accompagné Jean-Marc. Et nous avons choisi, sur ma proposition avec l'équipe de direction, d'inviter toute notre assemblée à relire le livre des Actes des Apôtres, à le lire en église ici, comme je viens de le faire avec vous, à le lire dans les groupes de maisons qui vont être mis en place ou qui vont redémarrer cette année, à le lire, vous les jeunes à Horizon, vous les jeunes de 18 à 25 ans, à le lire, même vous qui n'êtes pas dans un groupe, à le lire dans vos moments de dévotion ou de méditation personnelle. Parce que nous voulons être ensemble replongés dans ce récit incroyable, une épopée trépidante et même intimidante de la naissance de la première église, de ces premiers chrétiens qui étaient des hommes et des femmes ordinaires, prostrés même d'ailleurs, enfermés, calfeutrés, barricadés, mais qui un jour ont reçu ce qui leur était promis par le Père et par le Fils pour devenir alors des témoins contagieux de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Le message de ce matin veut être en quelque sorte une introduction générale au thème principal de ce livre qui nous dépeint les actes du Saint-Esprit agissant dans et par la communauté des apôtres et des disciples de Jésus-Christ, dynamisant l'Église naissante afin que tous soient témoins de l'Évangile, c'est-à-dire de la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ a accompli pour la rédemption des pécheurs. Et vous serez mes témoins. Nous avons ici, et maintenant Monique, tu peux m'accompagner, merci, Luc qui présente son second volume à un certain Théophile. Nous ne connaissons pas qui était ce Théophile. D'ailleurs, le nom Théophile, peut-être le savez-vous, peut être compris comme ami de Dieu ou aimé de Dieu. Alors certains se sont dit que c'est peut-être un nom choisi pour que tous les croyants qui liront ce deuxième volume sachent qu'ils sont amis de Dieu, aimés de Dieu. Il écrit ce second volume parce qu'il a précisément écrit un premier volume qui est le troisième évangile, l'évangile de Luc, l'évangile du même nom. Et dans l'évangile qu'il a composé et que son destinataire Théophile a dû lire, il était surtout question de raconter la vie de Jésus-Christ, sa naissance humble, son ministère incarné, sa passion, sa mort, sa résurrection, son ascension et sa glorification. Mais l'histoire ne s'est pas terminée là. Et c'est la suite de l'histoire que Luc souhaite raconter à Théophile. Parce que la suite de l'histoire fait partie également du plan de Dieu. L'Église n'est pas un accident. L'Église n'est pas une parenthèse. L'Église n'est pas ce que Dieu a sorti de son chapeau en disant « je vais m'adapter ». L'Église fait partie du plan de salut de Dieu. L'Église universelle. Celle qui rassemble les hommes, les femmes de tous les temps autour de l'amour de Dieu, de toutes les époques. Celle dont Dieu seul connaît finalement les contours, précisément, car il connaît les siens. Et les églises locales, dont la nôtre, sont rassemblement de l'Église de Dieu et sont elles-mêmes Église de Dieu, là où Dieu les a placées. Telle est notre conviction. Nous ne sommes pas une portion de l'Église de Dieu. Nous sommes l'Église de Dieu en communion avec les autres églises locales qui, elles également, le sont. Et c'est pour nous raconter l'histoire de la naissance de cette Église, de ce que Jésus continue de faire par le ministère du Saint-Esprit à travers les hommes et les femmes qui se mettent à sa suite, que Luc écrit ce deuxième volume. Et le verset 8 en dessine déjà le programme. Lorsque vous méditerez le livre des Actes des Apôtres, regardez attentivement la façon dont Luc va structurer la progression de l'Évangile ou le progrès de l'Évangile autour de ce verset programmatique. « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » L'Église naît à Jérusalem. Il y a trois grands mouvements. C'est la slide suivante pour vous aider à me suivre. Merci. L'Église naît à Jérusalem. Le jour de la Pentecôte, acte chapitre 2. Les apôtres reçoivent le Saint-Esprit, j'en dirai quelques mots. Elle grandit rapidement malgré les oppositions. Et ces oppositions vont grandissant jusqu'au premier martyr rapporté par l'histoire de l'Église, celui d'Étienne, donc jusqu'au chapitre 7. Chapitre 1 nous sert de portail d'entrée. Les chapitres 2 à 7 nous montrent ce qui se passe à Jérusalem. Et la figure qui va émerger comme témoin, c'est la figure de Pierre. Il y aura d'autres, mais un peu comme sous son égide. Va ensuite avoir un deuxième mouvement qui va s'enclencher après le martyr d'Étienne. On est au chapitre 8 jusqu'au chapitre 13. Luc va nous montrer le progrès de l'Église, le progrès de l'Évangile dans les territoires de Judée et des environs. Il y aura une dispersion. Et cette dispersion va aboutir à une multiplication de disciples en Judée, en Samarie. Et même l'Afrique sera touchée par l'eunuque éthiopien. Rome sera touchée. L'Évangile progresse, les amis. C'est le message de ce livre. L'Évangile progresse. Vous pouvez nous arrêter. Vous pouvez nous enchaîner. Mais l'Évangile continuera de progresser. Certains peuvent choisir de se taire, mais comme Christ avait dit, même des pierres peuvent crier l'Évangile. L'Évangile progresse. Ne nous y trompons pas. Alors que nous parlons chaque jour de vivre dans une société post-chrétienne, alors que chaque jour nous disons que les églises ne sont plus entendues, ne sont plus pertinentes, il y a comme un mensonge. Il y a même un mensonge. La vérité, c'est que l'Église du Christ progresse. Partout, sur tous les continents, l'Église grandit. Alors peut-être que dans notre culture française, dans notre société, dans nos sociétés européennes, oui, sans doute, il y a peut-être une décadence de l'Église institutionnelle. Peut-être qu'il y a une décadence des églises institutionnelles. Mais jamais l'Église n'a reculé depuis le commencement. Elle avance. Et en France, les statistiques du Conseil national des évangéliques de France nous disent qu'une église est créée tous les 10 jours. Alors, ce n'est pas des églises de 200 personnes. Parfois, c'est 20 personnes. Parfois, c'est 15 personnes qui commencent. Mais ils se déclarent en préfecture en disant « Nous sommes une église locale. » Tous les 10 jours. Le visage de la France, par exemple protestante, vient de changer. Il y a 10 ans, la France protestante pesait 2% des personnes. Aujourd'hui, on est à plus de 3%. Il y a 50 ans, les évangéliques de France étaient quelques centaines de personnes. Aujourd'hui, c'est plusieurs milliers de personnes. L'Évangile progresse. Parce qu'elle est une bonne nouvelle. Et que notre monde a besoin de cette bonne nouvelle. Quelqu'un a prié, Jésus, c'est toi qu'il nous faut. Nous avons besoin de toi. Je dis Amen. L'Évangile progresse. Et la dernière grande section de ce livre, vous le découvrirez dans vos lectures, marquée par la conversion de l'apôtre Paul qui intervient au chapitre 9, on ne gagne jamais contre Christ. L'apôtre Paul l'a compris. Je ne dirais pas à ses dépens, mais il a compris pour son propre bien. On ne gagne jamais contre Jésus. On ne gagne jamais contre Jésus. On peut se moquer de lui, on peut être dans la dérision, mais on ne gagne jamais contre Jésus. On parlait de témoignage avec Alpha. Je travaille 6 rue Séguier où il y a notre annexe, pour celles et ceux qui connaissent ou qui voudront, 6 rue Séguier, ça s'appelle Séguier, l'espace Séguier. Et c'est dans un immeuble et nous sommes en rez-de-chaussée. Et je commence à connaître des voisins, dont un avec qui j'ai particulièrement une conversation. Alors il a voulu que les choses soient claires et très claires dès le départ. Il m'a dit, sauf respect, monsieur le pasteur, moi je ne crois pas. Je ne croirai, m'a-t-il dit, que le jour où je le verrai face à face. J'ai dit, tu sais, un jour tu le verras face à face. Qu'on soit croyant ou pas, la Bible dit que tout œil le verra. Qu'on soit croyant ou pas. Mais seulement ce jour-là, il sera peut-être tard pour faire ce choix. Et la semaine dernière, donc... Ça devait être lundi ou mardi. Alors, il a son rituel, je le sais. puisque j'y suis souvent les lundis et les mardis. Donc c'est... Alors chaque après-midi, après son déjeuner, il va marcher. Et au retour, on discute. Et cette fois-là, j'étais sorti en ville et je l'ai croisé. Alors on a discuté et à nouveau, je lui ai tendu une perche au sujet de l'évangile. Alors, très simplement, je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit, mais je dis toujours avec lui quelque chose qui convoque Jésus. Et puis, il a eu cette expression. « Monsieur le pasteur, vous savez ce qu'on dit ?» J'ai dit non. Jésus crie et la caravane passe. Waouh ! J'ai dit, celle-là, on ne me l'avait pas encore faite. Je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, tu as dit, j'ai entendu ça ? Jésus crie et la caravane passe. Oh, que j'aimerais que tu sois dans la caravane du Christ. Je continue de prier pour lui. Alors il était surpris, parce que ça n'a pas coupé court notre conversation. Parce que j'ai d'abord bien ri, il faut avoir de l'humour, il faut savoir prendre des coups. Je lui ai dit que je n'avais jamais entendu ça. Et je lui ai dit que je comprenais. Parce que s'il avait compris que ce Jésus n'est pas juste en train de passer, mais en train de frapper à la porte de son cœur. Et s'il avait connu la caravane du Christ, je crois qu'il voudrait être dedans. La vérité, c'est que je rencontre très peu de gens qui sont contre Jésus. Je rencontre des gens qui sont déçus de ceux qui leur ont parlé de Jésus. Je rencontre des gens meurtris. Et encore cette semaine, je pense à mes frères et sœurs de l'Église catholique, par exemple, qui n'osent plus, qui n'en peuvent plus. À nouveau une histoire avec l'abbé Pierre. L'abbé Pierre. Le pape, vous l'avez entendu, a dit, en dépit du bien que cet homme a fait, il était un terrible pécheur. Et on pense aux victimes qui n'ont pas trouvé la force de parler depuis tant d'années, qui ont vécu avec des vies brisées d'abus. Ça vient nous rappeler que quelle que soit la position d'un homme et son ministère, un pasteur, moi, quelqu'un, qui que ce soit, en fait, comme dans les lettres, quel que soit, aussi grands que sont les rois, ils ne sont que ce que nous sommes. Cette ambivalence de la nature humaine, ce cœur capable d'aimer et de dire, mes amis, ce soir, une femme est morte de froid. Et qui va mettre l'étincelle à un mouvement extraordinaire de générosité qui perdure. Oui, cette même homme, au cœur marqué par le péché, a eu aussi ses heures d'errance. Et qu'est-ce qu'on va faire de ça? Alors notre société, elle pose le bon constat, mais ses solutions me questionnent en tant que chrétien. Elle dit on débaptise tout pour que les victimes ne soient pas choquées, je le comprends, mais aussi peut-être pour que la boutique ne s'effondre pas, parce que vous ne pouvez plus donner à la fondation l'abbé Pierre. Alors s'il n'y a plus son nom, peut-être ça rend cela possible. Elle débaptise, elle revise l'histoire et elle dit qu'on va déboulonner. En tant qu'Africain d'origine, j'ai été interviewé une fois par le journal Réforme pour savoir si j'étais pour ou contre ce qu'on appelle déboulonner les statues de ceux qui ont été des esclavagistes. Quand vous partez à Bordeaux, par exemple, vous voyez très bien. On m'a dit, tu es pour ou contre Colbert ? Je dis, ce n'est pas ça mon propos. Déboulonner, débaptiser ne résout rien. Ça dit quelque chose. De la profonde aspiration à la justice des faibles, des invisibilisés. Mais ça ne règle pas au fond le problème. Ce qui a changé ma vie, ce n'est pas si Colbert a été boulonné ou déboulonné. Ce qui a changé ma vie, c'est Jésus. Parce qu'il a parlé à mon cœur, parce qu'il a parlé à mes blessures, parce qu'il a été juste. Ceux qui ont dit que quand on est noir, on est maudit, qu'il y a un problème noir. J'ai fait moi-même un mémoire sur des commentaires comme ça depuis je ne sais plus combien de siècles. On a dit des âneries comme ça. Mais ce n'est pas Jésus qui l'a dit. Et si je m'étais arrêté à cela, je ne serais plus jamais rentré dans une église. La plupart des gens que nous rencontrons ne sont pas déçus du Christ, mes amis. Ils sont déçus de ceux qui parlent du Christ sans être transformés véritablement par lui. Nous voulons inviter. Invitons en sachant que cela implique de notre part un véritable travail de transformation. J'aimerais souligner trois points avec lesquels je vais aller rapidement. Témoin du Christ à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie. Il me semble qu'il y a quelques prérequis. La première chose, le premier point que je voulais souligner, merci Monique, nous devons connaître celui dont nous voulons annoncer le nom au monde. Nous devons d'abord connaître celui dont nous voulons parler au monde. Beaucoup de chrétiens ou beaucoup de personnes se disent « je veux témoigner ». Mais témoigner de qui ? Témoigner de quoi ? Les apôtres, pour eux, le témoignage, ce n'était pas une fable. Ce n'était pas un objet de savoir qu'ils ont lu dans les livres. Mais pour eux, c'était un vécu, une relation, au point où ils ont pu écrire ce passage dans 1 Jean chapitre 1, versets 1 à 3. C'est la slide suivante. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Pas peut-être. Ils l'ont expérimenté. Qu'est-ce que nous voulons annoncer aujourd'hui, nous ? J'ai peur, et je l'ai déjà dit, que quand les chrétiens ouvrent la bouche, qu'on se dise, ils sont encore contre quoi ? Non, je ne suis pas contre, je suis pour annoncer la vie. Je suis pour annoncer celui qui est la vie. Et nous vous annonçons ce qui était dès le commencement, quelque chose qui m'a précédé. Je ne vous vends pas une publicité. Je ne vous vends pas quelque chose que moi-même j'ai conçu. Les apôtres étaient des témoins au sens plénier du terme. Ils disent, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé, nos mains l'ont touché. Oh, que j'aurais aimé que mon voisin soit là. Moi, je ne peux pas être ce témoin-là. Mais moi, je reçois le témoignage des apôtres. Pourquoi c'est important de recevoir le témoignage des apôtres ? Parce que je ne peux pas connaître Jésus en dehors du témoignage apostolique. Ce sont eux qui l'ont vécu avec lui, au point où au chapitre 1, quand il faut remplacer Matthias, l'un des critères, c'est de trouver une personne qui a marché avec nous depuis le temps où le Seigneur Jésus fut baptisé jusqu'à son ascension. Le connaître, c'est marcher avec lui. Les apôtres ont marché avec lui. Ils ont partagé son cœur. Ils ont partagé sa vie. Ils l'ont expérimenté. J'ai fait une faculté de théologie. Et je sais que les facultés de théologie sont remplies de gens instruits. J'aime moi-même l'instruction et la théologie, vous le savez. Mais je sais qu'on peut faire un doctorat en théologie et jamais le rencontrer dans son cœur. J'ai vu des hommes et des femmes desséchés par la théologie. Et le problème, ce n'était pas la théologie qu'ils apprenaient. Le problème, c'est qu'ils sont restés comme extérieurs à ce Jésus. Connaître le Christ en profondeur, le rencontrer, c'est cet événement-là qui va faire de moi un témoin du Christ. Ça commence par là, mes amis. En ce qui nous concerne, il ne s'agit plus de dire que nous voulons le voir corporellement, parce que les apôtres nous l'ont déjà témoigné, et parce que nous avons le témoignage de Thomas. Et parce que lui, il n'a pas reçu la même béatitude que nous. C'est à nous autres que Jésus a dit « heureux ceux qui croiront sans avoir vu ». À Thomas, il n'a pas dit « heureux es-tu, Thomas ». Il lui a dit « maintenant, tu crois parce que tu as vu ». Nous n'avons pas à vouloir passer du voir au croire. Nous nous sommes passés du croire au voir ce que les autres ne voient pas. C'est différent. Je vais être témoin de qui et de quoi ? Si je ne l'ai pas rencontré, si je ne me suis pas laissé rencontrer, parce qu'en réalité, c'est lui qui nous rencontre. Et voilà pourquoi les apôtres pouvaient écrire aux premiers chrétiens en disant, « Jésus, lui que vous aimez, sans l'avoir encore vu. » Nous sommes dans la même situation que ces chrétiens qui aiment Jésus sans l'avoir encore vu physiquement. Alors je n'ignore pas qu'il y a des histoires de personnes qui l'ont vu en songe, qui se sont convertis parce qu'ils ont eu des visions. On entend parler beaucoup de ça dans les milieux musulmans et tout. Et peut-être que vous pouvez dire, ça c'est vraiment une conversion. Mais sachez que ça c'est exceptionnel. Depuis 2000 ans, la règle, c'est de croire au témoignage des apôtres. C'est de le rencontrer, y compris par le témoignage biblique et scripturaire. Nous savons que nous connaissons le Christ dans la mesure où son amour est en nous et que nous demeurons dans sa parole. Connaître Jésus, c'est bien, mais Jésus nous conduit dans la totalité de la connaissance du Dieu trinitaire, le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il est le Fils et il y a le Saint-Esprit. Un seul Dieu et trois personnes qui ne se confondent pas. Il est important, Église de Jésus-Christ, frères et sœurs, que nous puissions connaître celui que le Père et le Fils ont promis à l'Église. Deuxième chose qui me semble fondamentale, connaître celui que le Père et le Fils ont promis à l'Église, et celui-là a un nom, c'est le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont régénérés, c'est-à-dire tous ceux qui ont accepté Jésus sincèrement comme leur sauveur et leur Seigneur, qui ont renoncé à leurs péchés et ont compris qu'ils sont sauvés par grâce. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas les œuvres, au moyen de la foi. Alors ceux-là reçoivent, et c'est la promesse de l'Écriture, le Saint-Esprit. L'Esprit, vous allez le découvrir en relisant le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, il ne connaît pas deux catégories de chrétiens. Il n'y a pas deux catégories de chrétiens selon l'Esprit Saint. Mais il y a deux catégories d'êtres humains. Ceux qui refusent Jésus et ceux qui acceptent Jésus. Parmi ceux qui acceptent Jésus, il n'y a pas d'autre catégorie. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul peuple. Et c'est à tous ceux qui ont accepté Jésus que le Saint-Esprit veut être donné. Et c'est ce qui se passe dans Actes chapitre 2. L'Esprit Saint n'est pas donné seulement aux apôtres, mais aussi aux 120 qui étaient là. Et ceux qui n'avaient pas encore reçu se disent, ils sont ivres. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont ivres. Et Pierre se lève, il dit, mes amis, ne vous trompez pas. Ils ne sont pas remplis de vin. Ce n'est pas l'ivresse du vin. C'est une ivresse de joie. C'est une ivresse d'amour. C'est l'accomplissement de la prophétie de Joël et de Zacharie. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est un processus. Et avant ça, le Seigneur leur avait dit, attendez, attendez. C'était le temps de la préparation de leur cœur. Et ils attendaient dans le lieu secret. Est-ce que je m'attends encore au Seigneur? Est-ce que je m'attends à la plénitude, qui n'est pas la même chose que le baptême dans le Saint-Esprit. Mais pendant ces temps où nous enseignons, pas aujourd'hui, vous rencontrerez toutes ces notions et on va prendre des soirées pour approfondir. On aura 4 soirées en novembre pour parler de ça. Rechercher la plénitude du Saint-Esprit, rechercher les dons du Saint-Esprit, etc., etc. 4 soirées seront annoncées pour le mois de novembre autour de cela. Mais dans vos groupes de maison, avec les jeunes, s'il vous plaît, n'enjambez pas le Saint-Esprit. Il est important que tout chrétien comprenne qui est le Saint-Esprit et connaisse le ministère du Saint-Esprit, personnellement. L'Esprit est répandu sur les apôtres et sur tous les disciples. Et à tous, pas juste à quelques-uns, il n'y a pas d'élite. Ils reçoivent cette puissance, cette dynamisme d'annoncer au monde les merveilles de Dieu. C'est l'Esprit qui nous donne une parole intelligible. Comment se fait-il que nous les entendions parler dans nos langues maternelles des merveilles de Dieu? Et quand moi je parle, qu'est-ce que les gens entendent? Est-ce qu'ils entendent les merveilles de Dieu sorties de ma bouche? Est-ce que c'est ça que les gens entendent quand je parle? Ô Seigneur, donne-moi de parler pour faire entendre les merveilles de Dieu. Mes amis, vous verrez aussi et vous serez surpris qu'on peut entendre parler des merveilles de Dieu pendant longtemps dans son église. On peut même venir au baptême. Et curieusement, ne pas connaître le Saint-Esprit. C'est étonnant. Le livre des Actes des Apôtres nous donne quelques exemples. D'abord, la première fois que l'évangile va arriver en Samarie, Actes chapitre 8, l'apôtre Pierre va y être impellé pour constater l'œuvre de l'Esprit. Et on nous dit que les Samaritains étaient devenus disciples, ils avaient été baptisés au nom de Jésus. Mais c'est quand l'apôtre Pierre est arrivé, qu'il a prié pour eux, qu'il leur imposa des mains, qu'il nous a dit qu'ils furent remplis du Saint-Esprit et ils vécurent la même chose que dans Acte 2. Alors à partir de là, on va avoir des théologies qui divergent. Certains vont dire, vous voyez, il y a la régénération, nouvelle naissance, le baptême d'eau, et puis il y a une deuxième expérience qui est le baptême du Saint-Esprit. Moi, je ne vais pas batailler là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de creuser ça, c'est d'en discuter, c'est d'expliquer, et le temps de la prédication ne va pas être dédié à ça. Une chose est certaine, c'est que c'était la première fois que le Saint-Esprit était mentionné en Samarie, et il y a une continuité et la présence de Pierre pour souligner qu'il y a un seul et même esprit, et la même expérience vécue à Jérusalem, et la même expérience vécue en Samarie. Et la même chose va se passer au chapitre 10 avec Corneille, le premier païen arrivé. Pour souligner quoi ? L'unité de l'Église, quel que soit notre arrière-plan ethnique, et l'unité de l'Esprit. C'est le même Saint-Esprit. Il y aura toujours les apôtres pour l'attester. Mais il y a d'autres cas. Je passe très rapidement. Simon le magicien, voilà un homme qui était dans l'ésotérisme. Et peut-être que si tu m'écoutes ce matin ou quand tu écouteras mon message en ligne, peut-être que toi-même tu es dans l'ésotérisme. Peut-être qu'on t'a vendu des pierres en te disant qu'elles peuvent te sauver. Peut-être qu'on t'a vendu un collier en te disant qu'il peut te sauver. Peut-être c'est une bouteille d'eau. Peut-être c'est un livre. Peut-être ce sont des cartes. Ces choses existent dans notre pays. Simon était de ceux-là. Et la Bible nous dit dans Deutéronome 18 que Dieu a en abomination ces pratiques. Si tu es de cela, je t'invite à lire le livre des Actes des Apôtres. Simon a renoncé à la magie, mais superficiellement. Simon n'était pas régénéré de cœur. Et voilà pourquoi quand le Saint-Esprit a été donné, Simon n'a pas eu le Saint-Esprit. Parce qu'il n'était pas gagné à Jésus. Il avait l'apparence du disciple, mais il n'était pas connu. Il ne connaissait pas Jésus. La preuve, c'est qu'il a cru qu'il pouvait acheter le Saint-Esprit avec de l'argent. Comme son fonds de commerce avait changé, il ne pouvait plus vendre sa magie. Il a découvert la puissance de Dieu. Il dit aux apôtres, ah ça c'est la grande puissance. Ça, comme les jeunes disent, c'est de la bombe. Donnez-moi ça, je veux ça. Et il a cru qu'il pouvait acheter le Saint-Esprit. Il n'avait pas compris. Il ne connaissait pas Jésus. Un autre exemple se trouve en Actes chapitre 19. Je ne vais pas lire, nous n'avons pas le temps. Ce sont des disciples à Éphèse qui ont cheminé avec Apollos et qui ont reçu le baptême de Jean. Et l'apôtre Paul comprend qu'ils ont entendu parler de la repentance, mais ils ne sont pas encore venus à Jésus. Il va les faire venir à Jésus. Ils vont confesser Jésus-Christ. Paul va les rebaptiser du baptême chrétien, il va imposer les mains, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Ça change tout. Un autre exemple, c'est celui des sept fils de Séva. Ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit, mais ils étaient fascinés par la puissance du Saint-Esprit. Et ces sept fils de Séva, ils allaient, ils ont vu Paul, ils ont vu les disciples de Jésus chasser les démons. Ils se sont dit, waouh ! Il suffit de dire au nom de Jésus, ça marche. Alors ils sont allés s'essayer en exorciste. Au nom de Jésus, pars. Au nom de Jésus, pars. Et vous savez ce qui leur est arrivé ? Paf ! Ils se sont pris des allers-retours. Les démons les a bastonnés. Et il leur a fait leur catéchisme. Ils disent, nous connaissons Apollos. Nous connaissons Paul. Nous connaissons Pierre. Nous connaissons le nom de Jésus. Mais vous, qui êtes-vous ? Beaucoup d'imposteurs se sont levés et surfent sur la vague du Saint-Esprit. Beaucoup d'imposteurs se sont levés et surfent sur la vague du Saint-Esprit. Je crois que le Seigneur me demande de nous mettre en garde. Mais qui sont-ils vraiment ? Qui es-tu ? Je connais Apollos, je connais son témoignage, je connais son fondement, je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Lorsque vous suivez des personnes qui ont le Saint-Esprit matin, midi, soir, posez-vous cette question, qui il est vraiment? Je veux le connaître. Où est son église locale? Est-ce que je connais son pasteur? Comment il vit avec les gens dans l'église? Parce que sur YouTube, tu ne sais jamais. J'aimerais rencontrer sa femme pour savoir ce qu'il vit vraiment avec elle dans son couple. J'aimerais rencontrer ses enfants pour savoir comment ils vivent en tant que père, mère avec lui. C'est trop facile, sinon, de surfer sur la vague de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint est profondément relationnel. Et il transforme nos vies. On peut être ange à l'église et démon à 12h15. Faisons attention. Je parle sous le contrôle de ma femme et de mes enfants. Je ne les bâillonne pas. Vous pouvez parler avec eux. J'espère, Seigneur, fais-nous cette grâce. Et je conclue. Mes amis, vous voyez que j'ai juste fait quelques teasing, comme on dit aujourd'hui. J'ai juste ouvert quelques fenêtres. Excusez-moi, c'est une introduction générale. Mais ce que je veux nous dire, plongez dans le livre des Actes des Apôtres. Vous serez défiés, vous serez encouragés, vous découvrirez ça. Nous apprendrons à connaître le cœur de Jésus. Nous apprendrons à connaître davantage le Saint-Esprit. Il y a une troisième soirée, discerner les esprits, en novembre. Parce que la Bible nous le dit. À partir du moment où certains surfent sur la vague du Saint-Esprit, donc une troisième soirée, ça sera discerner les esprits. Et il y a une quatrième soirée, je ne sais plus le thème, mais... je crois que vous aurez ça dans le prochain livret qui tarde à arriver, mais ça va arriver. Enfin, ce que je voudrais dire en conclusion, finalement, il s'agit de vivre tout simplement. Partager simplement la compagnie du Christ. La vie chrétienne, elle a aussi sa routine simple. Alors on cherche les sensations fortes. On veut courir à la dernière nouveauté. Mais en réalité, moi, je me suis converti à l'âge de 15 ans à peine. J'étais entré dans une église et c'était un anniversaire. Et ce qui m'intéressait, c'était le gâteau d'anniversaire. Et là, ils nous ont fait une sorte de chose que les chrétiens parfois font. Ils ont dit, on va donner la parole au pasteur qui va prier pour bénir le repas. Et le pasteur a dit, frères et sœurs, avant de prier, j'ai une parole sur le cœur. Il a ouvert sa Bible dans l'évangile de Jean chapitre 11. Et il a raconté la longue histoire de la maladie de Lazare et puis de la mort de Lazare. Et puis je me suis dit, mais c'est qui cet homme qui parle de la mort à un anniversaire? Et puis il s'est arrêté sur ce verset où Jésus dit « Celui qui vit et croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Et moi, je vivais avec l'angoisse de la mort depuis que je suis tout petit. Quand vous avez vu partir des enfants à 2 ans, etc., et je vivais et j'étais angoissé de la mort. Et là, j'ai dit « C'est pour moi. Si ce qu'il dit est vrai, je veux croire à Jésus. Il est vrai que c'est parce que je cherchais une parole qui pouvait défier la mort. » Aujourd'hui, je sais, je le crois de tout mon cœur. Celui qui vit et croit en lui, même s'il meurt, vivra. Un anniversaire a été le lieu de ma conversion. Mais je sais, depuis une trentaine d'années où j'essaye de marcher avec lui humblement, que la vie chrétienne a sa routine, a son ordinaire. Tout n'est pas toujours extraordinaire. Ma sœur qui vient d'arriver à Alpha, tu me captes? Le Saint-Esprit nous bénit, il nous fait des choses merveilleuses. Mais comme je te l'avais dit, il y a aussi des moments difficiles. Il y a aussi des moments où il nous dit « grandis ». Il y a des moments où il faut sortir de la quête de l'extraordinaire et du spectaculaire pour être enraciné et fondé. C'est ce que j'essaye de vivre humblement. Et croyez-moi, ce n'est pas toujours facile. C'est un combat pour lire sa Bible, seul. C'est un combat pour prier et pour progresser dans la prière seule. C'est un combat de la sanctification. Beaucoup de chrétiens prennent des défaites dans la sanctification, mais ils veulent être les champions de l'eschatologie. Seigneur, est-ce que c'est à ce moment-là que tu rétabliras le royaume? Laisse les affaires du royaume qui ne t'appartiennent pas. Il y a des choses plus simples que Dieu te demande de vivre et tu te prends des gifles. Quand on en aura fini, alors on saura. Ce n'est pas la peine de spéculer sur le jour du retour du Seigneur. Ce qu'il me dit, c'est recherche la sanctification, ça à laquelle personne ne verra Dieu. Ça a commencé dans les cœurs de quelques-uns. Et le Saint-Esprit a poursuivi avec eux dans leur maisonnée. Les groupes de maison, les petits groupes ne sont pas une mode. je vais dire, ouvrez vos maisons. N'ayez pas peur de ça. Ouvrez vos maisons, pas forcément à tout le monde, à une, à deux, à trois personnes, comme on l'a vu dans Alpha. Que nos maisonnées deviennent des lieux où le Saint-Esprit remplit son ministère. Nos groupes de maisons sont aussi là pour ça, pour qu'on s'aide les uns les autres à écouter la voix de Dieu, à être équipés, fortifiés par le Saint-Esprit. Ensuite, ils sont allés dans les synagogues, ils sont allés en tout lieu, même jusqu'à l'aéropage d'Éphèse. Partout où le Seigneur avait ouvert une porte, il leur a donné la force d'apporter un témoignage. Et parfois, ce n'était pas des paroles, c'était juste leur manière de vivre, leur solidarité, leur générosité. Et comme quelqu'un a dit, parfois, évangélisons, que toutes nos vies évangélisent, et si c'est nécessaire, avec quelques mots. Que le Seigneur fasse de nous des témoins de son amour. Amen. Est-ce qu'on peut donner la parole à Christophe?
Je fais d'abord un Saint-Saint, et après je t'appelle.